bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Avec Léla Gadeau-Boudébine, Marina Rollman,
Frédéric
Siris,
bonjour,
Tom Villa,
bonjour.
Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure, et notre invité, Judith Chemla. Bienvenue Judith, pour parler de cette lune de miel. C'est un peu délicat, comme la toile de fond étant finalement c'est un voyage initiatique, un voyage aussi bien géographique puisque vous partez avec Adam, votre mari et le papa de votre enfant, vous partez pour un voyage vers la Pologne sur les traces de la famille d'Adam. Mais il y a tout un voyage aussi initiatique à l'intérieur de votre personnage. Vous êtes une maman, mais vous êtes aussi la petite fille d'une grand-mère. Juive polonaise disparue dans les camps
rescapée, mais dont la famille a été
décimée
et qui n'a jamais parlé de son histoire.
Voilà.
Et tout ce film est autour de ce voyage aussi bien intérieur que vers la Pologne. C'est un road movie réellement. Et en même temps, c'est une comédie. Et c'est vrai que dire au début la Fondation pour la mémoire de la Shoah soutient ce film et c'est une comédie, ça peut paraître surprenant.
C'est sûr.
C'est un peu perturbant au début.
Oui. Ouais. Comment vous présentez ce jeune couple ?
Comment je le présente ?
Ouais, Adam et Anna, vous dites quoi de ces deux personnages ?
Je trouve que c'est très agréable de... Bon, déjà, en lisant le scénario, je riais à haute voix toute seule dans le train, je ne pouvais pas m'empêcher, c'était très bien écrit.
Vous aimez l'humour noir et grinçant, parce qu'il y a beaucoup...
Mais il n'est pas si noir que ça.
Elle est chiante, elle est complètement chiante.
Voilà, ils sont un petit peu... ils sont un petit peu borderline, des fois. Ils sont singuliers, ils ont beaucoup d'humour aussi. C'est pour ça qu'on peut entendre aussi cette histoire très, très profonde en dessous, parce qu'il y a beaucoup de légèreté. Donc, mais moi, je les adore, les deux, là.
On va donc parler de ce film qui sortira le 12 juin prochain. Ça s'appelle Lune de miel et c'est réalisé, c'est le premier long métrage d'Élise Otzenberger. Mais d'abord, parlons et voyons. Si vous connaissez bien Judith Chemla, vous dites rien pour l'instant, Judith. Devant quel public s'est-elle rendue compte en saluant qu'elle serait dorénavant comédienne ?
Ses parents.
Non.
Ses grands-parents. C'est
la classe d'école. C'est une maison de retraite.
Non. Oui. Exactement.
What ? Ouais, je crois que j'ai déjà vu ça.
Une maison de retraite. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était enfin, quand, comment ?
Mais arrêtez de me regarder comme ça. C'est pas... Mais je l'ai lu.
C'est vrai.
J'ai une attirance comme ça vers les... personne un peu âgée. Non, mais je faisais un stage.
Vous connaissez Nagui ?
Je suis touchée, vraiment, que
c'est dur
que je sois dans votre programme de visite.
Vous êtes dans mon radar. Non, mais...
Donc vous avez fait quoi ? Un stage ?
Un stage avec des jeunes gens. 98, la Coupe du Monde, tout ça. Tout le monde était content. Et dans cette maison de retraite, il y avait une énorme salle de théâtre. Et on faisait un stage, là. Et puis, donc, on a joué devant toutes les personnes âgées qui habitaient la maison.
Donc, si vous avez joué, vous avez déjà cette envie d'être comédienne. Comment dire ? Je me suis rendu compte que j'aimais ça, ce genre-là.
Je me suis rendu compte que, à cause d'un prof de français qui nous fait pousser les tables, tout ça. Et là, paf ! Et là, paf, ça me tombe dessus. Voilà, je vois qu'on est libre, que je me sens libre comme je me suis jamais sentie, quoi. Donc, je dis.
On dira jamais assez merci au professeur de français. Il ou elle s'appelait comment ?
Monsieur Cantillon.
Très bien. Judith Chemla a fait son stage de troisième chez Ariane Mouchkine. Mais quelle était sa spécialité ? Que faisait-elle
chez... Elle était payée.
Non.
Pas du tout.
Du cirque ? Non,
peut-être parce que comme ils mangent, ils font masque, à manger aussi. C'est peut-être lié à la cantine
du Théâtre du Soleil.
Elle faisait la plonge.
Exactement.
La plonge.
C'est la vaisselle chez Mouchkine.
C'est là que j'ai plongé.
Dans le grand bain de la comédie.
Ah, voilà.
C'est pas frustrant de se dire...
On est dans les assiettes
non, pas du tout, mais on aimerait voir peut-être autre chose
de Mishkin que la visette. J'ai vu tout. J'ai vu autre chose. Non, j'assiste aux répétitions. D'ailleurs, j'avais un pull vert fluo comme ça aux répétitions.
C'est bien, porte-bonheur. Et il y a un acteur qui
m'a dit il va falloir enlever ton pull.
Ça porte malheur au théâtre, le vert. Ouais. Ça rappelle la mort, en fait. C'était ça le problème du vert.
Ah oui, parce qu'il y avait un poison dans le pigment vert.
C'était parce qu'on n'enterrait pas les comédiens, on leur mettait une espèce de produit sur le corps, je crois, pour les mettre dans la fosse commune.
Moi, je pense que c'était. Je pensais que c'était par rapport au traitement des tissus et que, en fait, avec la transpiration que tu sécrétais quand tu portais ce tissu teinté, ça déclenchait une sorte d'empoisonnement par contact avec le derme.
Okay. Moi, j'ai une autre version.
Ouais, c'est quoi? Les écologistes.
C'est vrai.
Comment Judith Chemla découvre-t-elle ses talents de chanteuse, talent indiscutable de chanteuse?
Dans un EHPAD.
Sous la douche.
Pas dans un EHPAD. Non.
Au Club Med.
Au karaoké, en famille, avec les parents.
Devant, n'oubliez pas les parents.
Non. Il y a la musique à la maison.
Dans un office religieux.
Alors, c'était en faisant une imitation. Je vais vous aider, mais.
Morane.
En imitant Dalida.
Non.
Presque.
Céline Dion.
Alors.
Barbara Streisand.
Whitney,
Gillo.
Une française ou une américaine?
Mais non, mais pensez à son répertoire classique aussi.
Barbara,
mais non.
Catherine Sauvage.
Ah, la calasse.
Exactement.
Wow. Pas mal.
C'est-à-dire.
Mais tout ce que vous avez dit aussi, hein, je veux dire.
Ah, il y a eu.
Oui, il y avait un peu de Piaf et un peu de calasse.
Gillo.
Voilà, non, c'était pour faire un
Johnny,
clin d'œil.
Forcément.
C'était pour faire un clin d'œil au répertoire classique aussi. Vous imitiez la calasse, c'est-à-dire, mais c'était pour faire rigoler ou vous étiez
mais
à
non,
fond
non,
dedans?
Non, c'est parce que j'ai commencé à écouter de l'opéra. Et puis, comme j'imitais un peu tout ce que j'entendais, bah là, j'ai fait pareil et je me suis dit, oulala, ça résonne là-dedans. Donc, j'ai commencé à prendre des cours.
À quel moment on se rend compte qu'on chante juste, je sais pas, c'est comme des
quand les gens restent.
C'est des vibrations.
Quand ils vous jettent rien.
Ouais, tu sais, dans les EHPAD, ils partent pas en courant non plus.
Ils roulent. Non, pardon.
Non, juste ça, je l'avais dès le début parce que mon père est violoniste, donc j'ai toujours eu la musique, quoi. Donc juste, ça va.
Alors, on s'est renseigné entre-temps sur l'histoire de la couleur verte. C'est toi, Leïla, qui avait raison. C'était on utilisait des produits chimiques pour la teinture des vêtements et s'empoisonner les acteurs. C'est pour ça que le vert porte malheur.
D'accord.
Tu as encore une fois raison. Ça m'énerve.
Oui, oui. Tu avais raison aussi sur les EHPAD.
Qu'est-ce que Judith Chemla aime bien voir vieillir, justement, avec le temps?
Bah, la peau.
Elle-même.
Non.
Les gens.
Non.
Les souvenirs.
Les meubles.
Peut-être les livres. Les peintures.
Exactement.
Mais là, je suis à quoi? 2-3 bonnes réponses?
Ouais, tu cartonnes
non,
aujourd'hui.
Pas beaucoup non plus.
Les livres.
Comment? Ah, tiens,
oui,
c'est un article récent, apparemment.
Vous avez dit ça dans Le Monde.
Ouais.
C'est récent, absolument. J'aime beaucoup vivre avec un livre, le voir changer, le voir vieillir.
Oui, c'est vrai.
Je trouve ça une belle image. Mais vous aimez aussi, rassurez-moi, l'odeur des livres neufs, c'est tellement génial.
Ah oui, oui, pourquoi pas les livres d'images qui sentent bon comme ça. Non, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur dans.
Un truc charnel,
dans les
en
livres.
Fait. Ouais.
Vous avez une bibliothèque imposante, importante.
Ça ne se voit pas au premier abord parce qu'il est au premier étage, donc les gens croient que je suis un peu.
Un culte.
Ouais.
Ouais. Moi aussi, mais il n'y a pas de deuxième étage.
C'est vrai que je sais.
Quel type de personnage aimerait-elle incarner?
Une super-héroïne.
Un homme.
Alors ça peut être le cas, mais on.
Une figure historique.
Ouais. Un homme, une femme, peu importe.
Une pilote.
Non.
C'est un métier?
Une guerrière.
C'est pas un métier, c'est.
Une femme politique.
Un état.
Ah, un état.
Une princesse.
Non.
Une folle.
Être
une
enceinte.
Enfant.
Non.
Être non. Enceinte. Être mourante.
Une malade.
Oui.
Ah.
Oui. Quel genre
dans le coma?
Qu'est-ce que j'ai encore dit?
Quelqu'un dans le coma?
Quel genre de maladie?
Cancer.
Ah,
Alzheimer.
Exactement. Exactement. Là, vous avez dit. J'aimerais jouer une handicapée moteur. Les gens qui ont un handicap expriment leur pulsion de vie d'une manière extraordinaire. Cela donne des situations décalées et bouleversantes.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai.
Vous aimez ce que vous dites, en fait.
Non, mais parce qu'on est liés. Je pense que les personnes aussi qui sont coupées d'un rapport social très normé, tout ça, expriment des choses qui viennent très fond d'eux-mêmes, des choses aussi primitives, beaucoup plus. Voilà, qu'on ne peut pas donner comme ça. Bonjour, merci, au revoir.
Oui, et de justement, c'est, on va revenir à cette lune de miel parce que il y a aussi toute une un jeu de psychologie dans le film parce que elle est extrêmement nerveuse, elle est tendue cette cette maman que vous interprétez. Elle confie son petit fils de j'allais dire de quelques mois à peine, enfin ou d'un an ou deux à ses parents. Oui. Donc c'est extrêmement touchant et André Wims est juste génial, Brigitte Rouen aussi, ce sont vos parents. Sauf que vous n'aimez pas du tout votre mère, vous lui interdisez de préparer la cuisine, vous avez préparé déjà les repas, tu ne rajoutes rien, de toute façon tu ne sais pas faire la cuisine. Voilà. On sent qu'il y a un problème entre elle et sa maman,
soucis, ouais.
Il y a quelques tensions. Oui. Et le papa est un papa gâteau ou un papy gâteau, peu importe, enfin on sent tout, tout l'amour du monde dans le regard d'André Wims qui est juste bouleversant. Oui. Brigitte Rouen l'est également, et là je parle du personnage, et elle va se révéler tout au long du film, on va peut-être pas dire pourquoi et à quel moment, parce que c'est un vrai tournant, une vraie surprise dans le film. Mais c'est avec cette tension-là qu'elle part presque obligée par son mari pour une commémoration sur la mémoire des Juifs en Pologne.
Mmh.
Et
tout à fait.
Et elle a, non mais il y a même un moment où elle est un peu jalouse. Elle fait oui, c'est pour ta famille. Évidemment, c'est bien organisé. C'est pas pour moi parce que moi, je ne sais rien de ma famille.
Oui, c'est ça. Bon, elle espère trouver dans ce voyage des choses, des informations sur sa famille disparue. Ils vont à la commémoration dans le village d'Adam, du grand-père d'Adam. Et elle essaye de par tous les moyens de trouver des pistes. Quoi.
Elle tombe même dans une paranoïa sur est-ce que c'est un piège, est-ce que les Polonais aiment encore ou n'aiment pas du tout les Juifs, qu'est-ce qui se passe.
Oui, est-ce qu'en fait tout ça n'est pas une machination de néo-nazis pour les exterminer,
pour réunir des Juifs et encore une fois leur faire du mal. Et comme vous ne parlez pas la langue même l'anglais c'est un massacre entre Adam et vous quand vous êtes dans les hôtels, dans les restaurants, mais ça donne des situations totalement dingues parce que les Polonais ne savent pas de quoi vous parlez, vous ne savez pas non plus comment vous exprimer, vous repartez avec des chaussures, c'est très très drôle la vanne des chaussures aussi, parce que vous croisez une fille facile qui se balade avec un vieux monsieur et qui a ses mêmes chaussures, donc évidemment le regard de votre mari c'est de dire bah voilà. T'as des chaussures un peu de péripapéticienne.
Oui, puis c'est une fille, c'est une femme, une mère qui cherche un sentiment d'appartenance, puisque dès qu'elle pose un pied en Pologne, elle a une forme de syndrome de Pologne, on pourrait l'appeler comme ça, où tout d'un coup, elle se sent comme chez elle. Elle a le sentiment de marcher sur les traces, en effet, de son aïeul.
Elle en fait un peu trop. Elle se sent polonaise dès qu'elle respire l'air polonais.
Elle a pas froid, alors que tout le monde grelotte, elle trouve que le cadre est merveilleux, alors que quand on voit le cadre, c'est vraiment pas l'endroit le plus beau du monde, mais en tout cas, elle y trouve une sorte de poésie parce que elle se sent appartenir à cette terre. Ce qui fait que, il y a aussi un vrai propos dans ce film sur la notion de racine, que finalement, on est avec deux individus, l'un qui est complètement coupé de ses racines et l'autre qui les a mais qui finalement s'en moque un peu. Mm-hmm. C'est toujours on court après quelque chose qu'on n'aura jamais finalement.
Oui. Non, c'est je sais pas, mais c'est ce qu'on ne sait pas, on a besoin d'aller le chercher. Ouais. Quoi. Et puis non, c'est assez beau sur la filiation, sur la lignée des femmes comme ça, cette grand-mère si importante pour elle.
Qui faisait du borscht.
Oui, mais
ah oui, et pas le même que celui qu'on sert dans le restaurant. Voilà. Et là, ça fait un scandale.
C'est le goût de l'enfance aussi. C'est ça, c'est le goût de l'enfance, cette envie de renouer avec quelque chose qui n'est plus.
Oui.
Mais elle est insupportable. Hein.
Ah bon?
Ah bah oui, mais début, elle est drôle.
Au début. Ils sont durs. Hein.
Non, franchement, il est patient le mari.
Ah oui. Oui, mais elle est marrante aussi.
Non, là, on est dans la salle de cinéma, à vivre, je ne suis pas sûr.
Et comment est partie l'idée de ce film? Comment ça a été monté? On disait tout à l'heure que.
Il y a un peu d'Élise au Seine-Berger.
À la base, c'est un voyage qu'elle fait, elle, avec son mari, après la naissance de leur enfant. Donc
histoire vraie.
D'accord. Après qu'elle a aussi beaucoup romancé, qu'elle a fictionné. Mais c'est une chose qu'elle a vécue et qu'elle avait vraiment envie de raconter.
Donc elle est pareil de découvrir qui était sa grand-mère, parce qu'elle en veut à sa mère de ne pas lui avoir assez parlé.
Oui, parce que les enfants de ceux qui ont survécu à la Shoah, ceux qui ont survécu pour vivre, il fallait pas rester dans le passé, il fallait avancer, créer autre chose. Et donc les enfants de ces gens-là ne veulent pas poser de questions, protègent leurs parents aussi. Ouais. Mais les petits enfants ont plus de liberté par rapport à ça et ont besoin de savoir. Les grands-mères se mettent les femmes ou ceux qui ont survécu se mettent à parler avec leurs petits-enfants.
C'est ce qui se passe exactement avec la maman de Richard Kolinka qui a écrit un livre avec Marion Ruggieri qui est absolument bouleversant, où pendant un certain temps, et c'est exactement ce qui se passe dans le film, les rescapés, les survivants de la Shoah finalement taisent les horreurs pour épargner les descendants et les petits-enfants en ne voulant pas leur raconter des horreurs. Et puis d'un coup, elles se disent, mais au contraire, j'ai un devoir de mémoire. C'est ce qui se passe dans le film.
C'est ça.
Et donc, il y a une transmission qui avait été interrompue comme pour protéger dans une bulle, en voulant être totalement française, totalement parisienne. C'est ce qui est dit dans le film. Elle voulait être parisienne, donc elle ne voulait pas parler de la Pologne ou parler polonais. Et puis, d'un coup, il y a plein de choses qui rejaillissent. C'est ça qui est fort et qui est très émouvant.
Oui, oui. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi émouvant. Parce que ça m'avait fait rire, et puis tout d'un coup, sur le tournage, j'étais envahie de beaucoup d'émotions, parce qu'on a vu des choses vraies, on a été vraiment cueillis par l'histoire, vraiment.
Il y a des choses vraies comme un cimetière juif dont les pierres tombales ont été démontées pour servir de terrasse.
Ah oui, 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 ça c'est terrible.
Non, c'est Judith, c'est pas drôle, arrêtez, c'est
pardon,
pas drôle.
Mais il vaut mieux en rire, parce que c'est...
Non mais c'est terrible, le gars est devant le cimetière, il dit non, c'est ma terrasse, vous touchez pas ma terrasse.
Il a fait sa terrasse avec les pierres tombales, il roule dessus tous les jours, c'est un truc aberrant, on pourrait pas voir ça en France, c'est fou. C'est atroce.
Donc vous êtes parti en Pologne, est-ce qu'en arrivant en Pologne et en allant sur des lieux de commémoration... On se prend quand même une décharge,
on se prend les morts qui remontent de la terre, là. C'est clair.
Et que vous disait Élise Ottenberger en vous dirigeant, puisque vous étiez
pas grand chose, elle avait pas grand chose, enfin à ce moment là elle a pas grand chose à nous dire, parce que il y a ce rabbin qui avait fait le kaddish qu'elle lui demande de le refaire, donc c'est une vraie prière, c'est un vrai acte spirituel. Il se passe vraiment des choses, donc on n'a rien à jouer.
Tout est déjà.
Arthur et moi, on était ruinés.
Ouais.
Le film sort le 12 juin prochain, Lune de miel. Alors oui, c'est une comédie, mais avec des valeurs, avec du sens, avec un poids historique. Ouais. Si par le prisme de l'humour déjanté des personnages, ça a une valeur de commémoration et de ne pas passer à côté de cette triste épisode de la Shoah, c'est une force en tout cas.
Oui, mais je pense que le film donne envie aussi d'appeler sa grand-mère et de renouer avec ses racines, quelles qu'elles soient.
Et puis c'est une lune de miel au sens où c'est un couple aussi qui va parvenir à mieux se connaître. Vous, votre personnage va réussir à avoir quelques éléments qui vont lui permettre de mieux se projeter en tant que femme, en tant que mère et en tant que femme aussi. Donc il y a une forme de couple qui se forme à nouveau dans le film. C'est ça aussi qui est joli. C'est aussi montrer que en tant qu'individu, on a besoin de savoir d'où on vient pour être heureux avec soi et pour être éventuellement heureux avec quelqu'un d'autre.
J'avais dit qu'on n'allait pas parler de la mère et du rapport avec sa fille. Tu spoiles.
Mais non, mais j'ai pas spoilé. Non, j'ai dit simplement que c'était des relations délicates, quoi. Et que pour être heureux en couple, il faut être heureux dans sa vie familiale aussi, en lien avec ses parents, ses grands-parents et donc son histoire.
Ouais. Ouais.
Surtout quand la maman ose rajouter du jambon dans une recette.
Ah bah oui.
Du halloufer, là, c'est pas possible. Et c'est ça. Non, c'est totalement dingue. Il y a des moments, c'est tout. Vous passez par toutes les émotions, du rire aux larmes, ou en tout cas la chair de poule, et avec ce devoir de mémoire, encore une fois. Et puis il y a même des vannes sur les juifs. Enfin, je repense à cette scène avec des santons qui sont en vente à 20 ou à 40 euros. Mais regarde, il a un gros nez. Regarde un petit juif. Non mais d'accord.
Mais c'est terrible parce que c'est vrai. en Pologne, c'est immonde. Je suis désolée. Mais il y a des petites caricatures de juifs avec un énorme pif et leur sac d'or, quand même, qu'on vend comme des magnettes à mettre sur le frigo.
Et à côté, des croix gammées.
Ah, mais c'est violent.
Il y a même eu un, y a des eu croix un carnaval qui a été interdit.
Ah oui.
Et des croix gammées à
ils
côté.
Ils vendent, oui, les restes de... sur les marchés, voilà. Les fripes, les croix gammées, les étoiles juives.
Je pensais pas, non, je pensais pas que c'était à ce point-là.
Ah, mais si!
Parce que, j'ai plus quelle expression, est employée par Adam dans le film sur, c'est peut-être pas Shoaland, non, je sais plus.
Le Disneyland de la Shoah.
Voilà, Disneyland de la Shoah, c'est ça. Parce qu'il y a des, comme, tout est organisé, avec des petites voiturettes.
Ouais. Chauffées avec la couverture.
Qui propose de se balader un peu comme les vieux petits trains dans
tourisme,
les autres
historiques, quoi.
C'est ça. Avec Schindler, visite Schindler et ainsi de suite.
C'est vrai, tout à fait. On peut aller faire du tir à la mitraillette, faire après de l'acrobranche, et puis en dessous, il y a Auschwitz, la visite d'Auschwitz à 90, je sais
pas. Ouais, c'est bizarre.
La monnaie, quoi, mais...
ouais. Voilà. 90 la monnaie,
j'ai tout oublié.
On sent la comédienne qui était prise en charge par le directeur de production.
Je crois que j'ai fait un petit blackout.
Ça sort donc le 12 juin, Judith Chemla est dans ce film absolument...
Des Zlotys.
Merveilleux. Ah, voilà. Des Zlotys, très bien. Merveilleuse. Je n'ai pas cité Arthur, Igual, magnifique. Je n'ai pas cité Isabelle Candelier, Antoine Chappé, en plus donc de Brigitte Rouen et d'André Vives. On est d'accord, ça va être un succès, Tom Villa.
Oui, alors je rassure déjà nos auditeurs amateurs du 7e art qui arrivent là à 11h25. C'est vrai que Lune de miel.
De donner l'heure.
Bah oui. Non, mais c'est vrai que Lune de miel, ça fait un petit de film avec Christian Clavier qui sera en couple avec Louane. Bref, un truc très crédible. C'est que Clavier et Louane partent au Club Med à l'île Maurice pour leur fameuse Lune de miel. Louane se fait draguer par des géos. Clavier se claquerait des ligaments croisés sur un tiramisu au buffet. Louane flirterait avec son prof de paddle. Bref, une comédie française. Mais là, pas du tout.
C'est
Lune de miel.
Hey, t'as un pitch. Tu tiens un truc.
Ouais, mais il faut avoir le casting. Non, Lune de miel, là, c'est version France Inter. Voilà, c'est un couple de jeunes parisiens d'origine juive qui vont pour la première fois de leur vie en Pologne pour la commémoration du 75e anniversaire de la destruction de la communauté du village du grand-père du marié. Donc voilà, c'est super, mais pour ceux qui arrivent et qui étaient inquiets, c'est vrai qu'il y a peu de chances de voir Laurent Ronac en tongs et à servir des mojitos. Non, mais c'est pour sauver les profs d'histoire géo et les instits à la retraite. Non, mais Lune de miel, c'est plutôt un voyage initiatique sur les origines. D'où ma question, doit-on forcément savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est? On se posait la question, Judith, vous vous posiez la question. Et là, on vient de gagner 3 points chez les profs de philo. Non, mais c'est une bonne question. Retourner sur les traces de sa famille, de ses origines. En 2016, il y a un sondage qui montrait que 70% des Français étaient intéressés par la généalogie. Mmh. Selon une étude de généalogie.com. qui est quand même vérifié. Non, mais c'est vrai. Alors, je vous jure, ils ont fait le sondage et il y a 57% des sondés qui voulaient se découvrir un lien de parenté avec une personnalité et 44% qui voulaient savoir s'ils descendaient de Charlemagne ou Saint-Louis. Après, qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Parce que pour le moment, savoir si t'es un descendant de Charlemagne, c'est comme être David Hallyday à l'heure actuelle. Pour le moment, sur l'héritage, t'as que dalle. Il y a quoi qui change dans ta vie si tu descends de Charlemagne? Non, mais non, je sais pas, peut-être. Même, t'as même pas de passe VIP au palais d'Aix-la-Chapelle, tu vois, lundi au boulot, quand t'arrives, si ton patron il te convoque, tu vas pas lui dire, dis donc connard, tu parles à l'arrière-arrière-arrière-grand-père, du petit cousin par alliance, du beau-frère de l'oncle de Pépin le Bref, alors tu vas changer de braquet. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, et puis, avoir un lien de parenté avec une star, c'est cool, mais si tu te rends compte que si t'as des liens de parenté avec Barberousse ou Émile Louis, c'est pas la même journée non plus, tu vois. Et puis, les herbes généalogiques, quelle galère, on comprend rien. Déjà, dès qu'il y a une famille recomposée, ça fout le bordel. Enfin, aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ça baisait en cachette, mais on le savait pas. Non mais vraiment, ce truc de savoir d'où l'on vient, il y a des familles, t'as pas envie de savoir. Mais pourquoi papy il a déménagé à Vichy en 41? Tu vois, t'as pas envie d'avoir la réponse. Vous voyez, c'est pas forcément nécessaire de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Par contre, si vous voulez savoir où on va, on peut commencer par le ciné le plus proche qui projette Lune de miel, et c'est mercredi.
Bonne bien, la classe, merci de bien. France Inter, Maggie. La bande originale. Tout à l'heure, nous recevrons Audrey Kiszlewski pour parler des survivants, les Juifs de Pologne depuis la Shoah. Il y a eu un travail de recherche pour vous. Est-ce que vous avez non mais donnez-moi le papier directement, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez lu, vous avez travaillé, vous avez discuté avec Élise. Ou est-ce que c'est un film qui a demandé une autre approche que simplement être une actrice au cinéma?
Oui, quand même. On a fait un beau travail de préparation. Élie nous a donné beaucoup de choses à lire. Elle nous a donné comme la bibliothèque d'Anna et Adam, les personnages, beaucoup de films à voir, des choses qu'ils aiment, enfin vraiment.
Ah ouais.
Ouais ouais. Et puis des livres comme ça d'elle, sa bibliothèque. Donc on a quand même fait un gros travail qui a nourri notre imagination, quoi.
C'est vrai qu'au début du film, on voit des piles de livres, on a des plans comme ça qui dessinent un peu le. Et quel genre de lecture, par exemple, on peut donner pour votre personnage qui, on l'a dit, est un peu parfois exacerbé, un peu excité, qui aime bien tout réguler. C'est un peu ça. Quel genre de lecture ou de film
Par exemple, il y a Les Disparus de Daniel Mendelsohn, qui est un gros livre très très documenté, où le personnage fait aussi et cherche aussi des choses qu'il trouve pas, qu'il finit par trouver. Donc ça, c'est beau. Et puis des livres de Isaac Bashevis-Singer qui sont merveilleux, où on rentre vraiment dans le monde perdu de cette époque, qui sont magnifiques, où vraiment on assiste à la montée du nazisme aussi. C'est vraiment très, très, très nourrissant.
Et le premier moteur, la première raison pour laquelle vous avez accepté, c'était la comédie, c'était l'humour.
Oui, c'était déjà c'est écrit par une actrice, Élie, c'est une actrice, on sent vraiment un regard très très différent sur les femmes, sur le couple, c'est très singulier quoi. Et il y a vraiment elle est très très douée pour les dialogues, donc c'est très drôle quoi. Moi, c'est ça qui m'a accroché.
Il y a des scènes improvisées
évidemment l'histoire, mais
essayez des scènes improvisées justement pour laisser une liberté d'acteur.
Pas trop, c'est très très bien écrit, donc il y a quelques trucs improvisés avec les quiproquos en polonais, tout ça, c'est
très drôle,
c'est marrant, ouais. Mais
il y a des scènes très drôles dans le couple. Hein. Je pense à une scène en voiture, pardon de la déflorer, mais elle est géniale. C'est qu'ils s'engueulent, ils sont arrivés un peu à bout de course tous les deux, on va dire. Ouais. Et lui lui dit que finalement, ça serait plus simple sa vie s'il n'était pas marié avec une juive.
Ouais.
Et elle lui dit ah ben bravo, ça y est, moi je suis mariée avec un antisémite.
Juif antisémite.
Voilà.
Et lui, juif antisémite.
Un juif antisémite. Et lui lui répond, moi je suis mariée avec Rabbi Jacob. Et voilà. Je trouve qu'en effet, il y a une forme d'acuité, il y a quelque chose d'hyper percutant dans les dialogues pose tout de suite des situations. On n'a pas besoin d'en tartiner des kilomètres.
Ouais. Sans compter que, avant de louer la voiture en question, c'est pas simple non plus, puisqu'il y a Ping et Pong, deux loueurs de voitures sous vodka.
Qui parlent chinois.
Qui parlent chinois sous vodka. Et vous parlez chinois d'ailleurs avec eux, vous.
Ouais, un peu.
Ouais, non, mais vous tenez mal la vodka. Non, ça, c'est vrai que c'est drôle, mais tout ça sur cette toile de fond de il ne faut pas oublier. Déjà, c'est bien de savoir d'où on vient pour et puis surtout ne pas oublier. Et puis il y a une dame justement aussi dans le film, c'est extrêmement émouvant cette scène qui explique aussi, elle est guide, je crois.
Evelyne, elle raconte son histoire.
C'est ça.
C'est elle vraiment, depuis qu'elle est grand-mère en fait, elle peut dire, elle, c'est fou, que quand elle était petite, quand elle est sortie du camp, elle était aussi avec d'autres enfants.
Donc c'est pas une comédienne?
Non. Non, c'est d'accord. Vraiment son histoire. Elle y se tenait beaucoup à ce que ce soit pas un acteur ou une actrice, que ce soit vraiment une vraie rescapée.
D'accord.
Et elle a pu parler à son petit enfant, parce que son petit fils lui dit « Et toi, grand-mère, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais petite? Qu'est-ce que tu faisais comme bêtise ?» Et elle dit « Rien, rien ». Et elle, c'est là que tout lui est remonté. Parce qu'elle peut dire...
Elle aussi ne voulait pas parler, elle aussi voulait protéger.
Ouais. Elle pouvait même dire qu'avec les enfants avec qui avaient survécu, rien n'avait existé. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fallait un déni pour pouvoir vivre. C'est fou. Rien n'avait existé, c'est ce qu'elle dit. Et puis, à 60 ans, tout remonte. Et là, c'est très... Là, le ciel lui tombe sur la tête.
Et pendant qu'il y a encore des survivants de cette horreur historique, il faut au contraire qu'ils parlent et qu'ils racontent, parce que dans 50 ou 100 ans, voilà, ils sont plus là pour le raconter.
Oui.
C'est là aussi ce devoir de mémoire, et c'est ce que réussit à faire ce film. Ça s'appelle ça s'appelle Lune de miel. Il n'y a pas d'article. Lune de miel, et c'est au cinéma mercredi prochain. Voici Marina Romane. Allez, vas-y.
Bonjour les amis. Bonjour. Alors moi, cette semaine, telle une atroce bobo parisienne, j'ai eu la chance d'aller 3 fois au théâtre. Et moi, c'est pas dans mes habitudes. Je sais, pardon, excusez-moi.
Oh,
et non, mais attendez.
Merci.
Et moi,
elle vient de nous tacler.
C'est pas dans mes habitudes. Le théâtre, je connais pas du tout. Mais voilà, par un court cours de circonstances, m'y voici. Et j'en reviens donc avec ce scoop. Et Mais c'est vachement bien le théâtre, en fait. Et mais vous saviez, personne dit rien, mais en fait, c'est charmé. Forte de cette illumination, j'ai décidé de faire un peu de prosélytisme cette semaine et d'enjoindre les quelques auditeurs qui seraient un peu des sceptiques du spectacle vivant à aller au théâtre. Alors moi, une des grandes réticences qui était la mienne et qui est, je crois, partagée par beaucoup de gens qui vont pas souvent au théâtre, c'est j'y crois pas. Il y a un problème de suspension de la vraisemblance. Et alors forcément, c'est vrai qu'il y a des choses au théâtre, tu dois suggérer ou dire plutôt que les montrer littéralement. Tu peux pas vraiment bombarder une maison. Hein, il faut croire à ça avec des indices. Mm-hmm. Mais en vrai, si vous regardez des films ou des séries, vous acceptez déjà énormément de choses qui ne sont pas vraisemblables sans les remettre en question. Dans les films, par exemple, on se couche maquillé. Ouais. Et donc on se réveille maquillé.
C'est vrai.
C'est un mensonge. Si tu te couches maquillé, tu te retrouves avec des yeux de grenouille, des ch'tards partout, justice nulle part, quatre cils collés au mascara pour une espèce d'effet patte de migale, c'est dégueulasse. Dans les films, on court sans ticket dans les aéroports. Bouquet de fleurs ou pas, Matthew McConaughey ou pas. Aujourd'hui, si tu cours dans un aéroport, tu te fais taser en 4 minutes, c'est une certitude. Dans les films, on réussit les anniversaires surprises. Ouais, personne vend la mèche. Aucun copain ou copine d'amis, qui connaît personne à la fête, ne croise la personne dont c'est l'anniversaire en bas de l'immeuble en lui disant « Bonsoir, pardon, j'ai pas le code, vous allez à l'anniversaire de Mathieu ? C'est moi, Mathieu. » Dans les films, il y a des gens beaux qu'on ne voit pas parce qu'ils portent des lunettes. De Superman à toutes les meilleures comédies de lycée, les lunettes sont manifestement un déguisement total. Moi, je pense de 2001 à 2011, Oussama Ben Laden, il portait des lunettes. Il vendait des chichis sur la plage au Lavandou. Et un jour, il a oublié et paf, il s'est fait attraper. Et aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, il était très joli, mais on l'avait pas vu parce qu'il avait des lunettes. Non, c'est un mensonge. Les lunettes, ça cache rien du tout, sauf si tu t'es pas épilé entre les sourcils, mais c'est un autre problème. Dans les films, évidemment, l'ascenseur est toujours là. Ce qui n'est pas vrai, on le sait. Dans les films, on tombe l'un sur l'autre et on s'embrasse. Tu sais, rouler, bouler comme ça. Une fois. J'ai fait ça avec un copain quand j'avais 23 ans et je me suis cassé un bout d'incisif. Déjà, j'étais au Liechtenstein. Ne me demandez pas pourquoi j'étais au Liechtenstein. J'étais en voyage, en voiture, tout ça avait très mal commencé dans un hôtel miteux. Et hop, rouler, bouler, pas foncer, embrasser, tac. J'ai senti un truc et mon copain a fait attends et il a recraché mon bout dedans. Donc faites gaffe à vous, les enfants. C'est casque, bon. Genouillère, pensée sécurité.
Ça, il faut le mettre dans un film.
Ouais, voilà, peut-être ça viendra. Mais oui, voilà, c'est ça. Les vrais rouler, bouler, en vrai, c'est pas très glamour. Et enfin, dans les films, il y a des gens qui parlent une autre langue et qui friment pas avec. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation et tout à coup, ils parlent une autre langue. Et les potes savaient pas du tout. Mais c'est impossible. Bien sûr que tu caches pas à tout ton entourage que tu parles russe toute ta vie. Oui. Déjà, moi, je suis insupportable. Dès que je vais dans un restaurant italien, j'ai des potes qui sont là. Ouais, je veux prendre un panini tomate, s'il vous plaît. Et moi, un panino, s'il vous plaît. Non. Non, évidemment qu'on est prétentieux quand on parle une autre langue. Donc, si on croit à tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne croirait pas à la magie du théâtre? Mais la question pour les gens qui n'y connaissent rien, moi y compris, c'est qu'on est parfois un peu paralysé par le fait qu'on ne sait pas quoi à aller voir. Et à ça, j'ai la solution, les amis. Si vous habitez à Paris encore ce soir, demain et samedi soir, se déroule au théâtre Le Pic, le festival Mise en Capsule, qui propose tous les soirs 5 pièces courtes pour un seul billet. Et il y a tous les styles, tous les sentiments, toutes les humeurs. C'est sûr, vous allez passer une bonne soirée parce qu'à nouveau, je répète, l'actu chaude de cette semaine, le théâtre, c'est chambé.
Merci. La bande originale, Maggie. Sur France Inter. Mais je vais essayer, t'as raison, la prochaine fois au restaurant de commander des mozzarelli pour voir comment ça se passe. Et je dis d'ailleurs le chinois, revenons à ce que disait Marina Rollman, oui.
Pas du tout.
Maîtriser les langues. Et cette scène en chinois, alors d'où sort-elle?
C'est Élise qui parle chinois, bien sûr.
Ah, donc vous avez appris une phrase. Non, mais cette scène est vraiment drôle. Et en plus que le polonais ivre de vodka dise « mais je suis chinois », c'est extrêmement drôle. La musique aussi. Alors, on n'a pas la bande originale de votre propre film, mais il y a une chanson, une mélodie qui revient au début et à la fin. Hava, Nagila Hava,
Nagila Hava, Nagila Venis Mecha.
Dans une autre version, quoi. Mais...
Oui, c'est une version plus romantique et piano-voix.
Ouais.
Oui, je suis au générique du film, je ne sais pas. Arrêtez avec ce Nagi Hava, je ne connais pas ce monsieur. Mais on retrouve en tout cas toute la tradition et la fête juive recherchée. Puis il y a tout aussi un sketch autour de la circoncision de l'enfant qui est extrêmement, extrêmement drôle. Extrêmement drôle.
Sauf pour lui.
Lune de miel, ouais, on va pas divulgacher. Lune de miel, c'est mercredi prochain au cinéma. Judith Chiemla est notre invitée et on va découvrir la musique que vous écoutiez peut-être dans votre naissance, au milieu des années 80. Qu'est-ce qu'elle évoque cette musique à votre mémoire?
C'est mon père qui joue là. Oh. C'est mon papa qui joue. magnifique.
Et ça fait quoi?
Bah, c'est magnifique.
C'est mouvant.
C'est, pour moi, c'est du hard metal rock, là.
Patrick.
André Ayo, c'est
extraordinaire.
C'est Patrick, hein. Son,
ouais,
le prénom
c'est
de
Patrick,
papa.
J'aime là. Non, mais c'est, moi, ça me, j'adore. Je trouve que c'est merveilleux. C'est Manuel de Falla, la danse de la vie brève. Sublime. Bah, je sais pas. J'ai toujours entendu jouer. Voilà, je sais pas. Je sais pas comment vous dire. Ça me constitue, quoi.
Votre père est violoniste, ouais. Virtuose.
C'est... Plutôt, ouais.
Ouais, hein.
Plutôt pas mal.
Ça l'a pété, mais
plutôt virtuose.
Il a commencé très jeune. En tout cas, il était virtuose, ouais. Très, très, très jeune.
Ouais.
Donc, ça veut dire qu'à la maison, l'environnement était musical.
Ouais,
c'est
tout
ça.
À fait,
ouais. Ouais. Pourquoi ce geste?
Bah, parce que c'est la musique, là. Paf, là. Ouais. C'est très, très, très beau.
Ok. Ça, c'est fait. Passons à 2007. Là, vous écoutez. Vous faites partie de ces danseuses au bras en l'air.
Au bras en l'air.
Ouais, c'est ça.
Ou un peu de derrière. Un peu tout ce qu'on veut, quoi.
Très bien. Rachida avec Aya Raya. Là, cette musique, c'est la danse. Vous entendez ça? Vous
faut
avez
que
déjà
ça danse,
vous
l'avez dit. Là, c'est la période de faut que ça danse. Alors, évidemment, moi, je pense à ça.
Parce que 2007,
c'est de Noémie Lvovsky. C'est le film de Noémie Lvovsky. 2007, c'est Elphone aussi.
Ouais.
Début au cinéma, donc, et c'est aussi l'entrée à la Comédie Française.
Ouais.
C'est une année plutôt réjouissante.
Plutôt pas mal, ouais. Mm-hmm. Non, c'est ça, réjouissant, donc je pense à cette musique.
Tout de suite, ouais, forcément, à la danse. C'est une musique qu'on pouvait entendre à la maison éventuellement?
Ouais, que je peux mettre.
Ouais, ouais, parce que vous dites que votre papa est d'origine juive tunisienne.
Ouais, voilà.
Donc j'imagine qu'il y a aussi des accents du Maghreb.
Avec mon grand-père, oui.
Qui viennent faire bouger la famille. Il y a un truc comme ça. Parce que on revient un tout petit peu à votre maman aussi, qui voulait être danseuse.
Oui, bah oui. Danseuse qui peint, non, qui a une âme très artistique. Bien,
vous nous regardez avec ben oui, genre, oui. Comme si on
la connaît pas. On la connaît pas.
Comme si c'est une copine.
Mais la prochaine fois.
Enfin. Non, mais c'est pour un peu brosser comme ça.
Ouais,
mais
elle a vraiment
familial.
Une âme artistique qu'elle n'a pas mis à l'œuvre dans sa vie. Ouais. Elle a fait du droit, de l'économie, de la gestion, du management. Elle l'a enseigné ça aux élèves. Mais, elle m'a aidée à faire ce que je voulais. Parce ouais. que...
C'était la Comédie Française, c'était votre Graal.
Pour ma mère, ouais.
Pas pour vous.
Pour moi, j'étais hyper contente parce qu'en plus j'ai signé le jour de mon anniversaire.
Waouh.
Et on me propose de Célimène, le misanthrope et tout. Je peux pas refuser, quoi. C'était magnifique.
Alors pourquoi être partie?
Bah parce que je savais que j'allais pas faire ma vie là-bas.
Enfin, 2 ans, c'est court.
1 an et demi, ouais, ouais.
Pardon.
Non, mais
quand
on sait qu'on veut pas, voilà, bah autant la faire vite ailleurs.
Et pourquoi on veut pas?
Mais parce que moi, je. Savoir tout à l'avance, là, mon programme, bla bla bla, pendant 2 ans, là, j'ai pas de trou, c'est la machine, ça m'angoisse, ça m'oppresse. Ouais. Même là, quand je sais trop à l'avance.
Il y a des acteurs qui sont angoissés de ne pas savoir ce qu'ils vont faire le mois prochain.
Ça m'angoisse d'être trop bloquée. Parce que je veux toujours que la vie puisse nous surprendre, je veux pouvoir faire des choses par moi-même. Et je trouve que pour vraiment inventer des choses, il faut avoir un peu le vide en dessous, là. Il faut marcher un peu sur un fil. Sinon, moi, je me sens.
C'était bien quand même ou pas?
Ah, j'ai adoré. J'ai adoré tout ce que j'ai fait, tous les gens que j'ai rencontrés, c'était la fête, vraiment.
Vous êtes fait des. Il y a des copains pour la vie ou pas pendant cette année-là?
Ah, si, il y a des gens que j'aime pour toujours.
Mais des comédiennes que l'on connaît?
Ah, bah oui.
C'est qui votre bande?
Ah, bah ma bande, non mais c'est pas une bande, mais Serge Bagdasarian, Loïc Corbery. Georges Yaskaliette, on s'est pas croisé, elle est venue quand. Mais je l'adore. Denis Vaudalides.
Ils sont sur scène.
Beaucoup. On n'était pas ensemble, mais je veux dire, plein de gens merveilleux, quoi.
En parlant de la Comédie Française et de recommandations théâtre, il y a Electre Orest en ce moment avec Denis Vaudalides,
oui,
Loïc Corbery.
Je suis sûre que c'est extraordinaire.
Suliane Brahim, qu'on a vu dans Mouche.
Ouais.
Et puis aussi Christophe Montenez, et c'est une mise en scène d'Ivo Van Hove, et c'est vraiment merveilleux.
Ouais, j'en suis sûre. Ouais.
En 2010, vous écoutiez Florence and the Machine. Elle est dingue,
folle.
Cette fille. Ah ouais, j'adore. J'adore.
Moi aussi, j'adore.
Et alors là, qu'est-ce que vous avez comme souvenir, comme image liée à cette musique ?
Bon, alors, c'est une année assez folle. Il y a ce spectacle Tue-tête, il y a mon fils qui naît.
Votre spectacle, ouais, que vous créez.
Mon fils, la naissance de mon fils, et puis aussi une tournée avec Martial Difonzobo, où on écoutait ça comme des fous. Et c'était génial, cette pièce, là, l'entêtement, ça s'appelait. Jouer une folle. Et j'adorais le posséder, quoi. C'est génial. On dansait comme des malades dans les loges sur ça.
Et, mais être enceinte à cette époque-là, ça a été compliqué. Pour vous. Vous dites en termes de gestion que c'était.
Vous jouiez enceinte?
Ouais. Non, j'ai joué enceinte au début.
Vous étiez dépassée.
Mais ça, j'ai toujours joué enceinte, en fait. Ma fille aussi. Bon, c'est comme ça, c'est la vie.
C'est pas un prérequis, en fait.
Non, bah. Donc j'ai pas mal de gosses, là, sur le.
Chaque fois que vous jouez, vous avez un enfant.
Ouais. C'est pour ça qu'elle pouvait pas passer à la Comédie Française. Elle jouait trop souvent. Et
ça empilait trop. Mais. Non, je sais pas si c'était compliqué. C'était comme ça. Ça fait beaucoup, mais c'est,
en même temps,
c'est la
quand
vie,
on est enceinte, on n'est pas malade, mais on peut être.
Non, j'ai eu le
fatigué.
Pied cassé en même temps. Non, ouais. Non, mais ça s'est réparé. Ça, 2010 après, c'était.
De, 3 ans après, ouais, 2010.
Réparé.
Ouais.
En 2016, vous écoutiez.
La voix est sweet.
Jeff Buckley, c'est dans quel moment que vous écoutez Jeff Buckley? C'est seul dans une chambre, c'est dans le noir, c'est.
Seule en pleurant.
En vous promenant.
Sur mon bureau.
Mais, la musique, vous chantez, vous vivez dans la musique, mais elle vous accompagne en permanence dès que vous vous levez, il y a de la musique.
Tot. Ah non, il faut du silence aussi pour écouter, pour profiter de la musique. Non, je suis pas totalement.
Vous n'avez pas de casque en permanence, vissé sur les oreilles.
Pas de casque, non.
Et on a aussi à écouter en 2016 la musique que vous interprétiez. Et là, c'est vous.
Eh ouais. Eh ouais, c'est moi.
Violetta.
Quelle voix,
Violetta.
Oui.
Dans la Traviata de Verdi.
On travaille cette voix, c'est pas inné de pouvoir chanter comme ça.
Oui, ouais, il faut travailler. Ouais.
C'est beaucoup d'années.
C'est sûr. Ouais, bah oui. Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est sûr. Bah faut, je sais pas. Ça c'est beaucoup de travail, ouais. Mais c'est beaucoup de passion.
Et c'est beaucoup de talent aussi de faire passer ça comme étant.
Évidemment. Beaucoup de talent.
Bah oui. le talent de ne pas montrer le travail déjà.
Bah.
De le faire avec une facilité où on se rend pas compte à quel point c'est difficile de le faire.
Bah je sais pas, parce que à partir du moment là où on est sur scène, on chante, oui, bon bah c'est.
Non, mais c'est
tout
comme
le travail en amont.
C'est comme les danseuses à l'opéra. On a l'impression que tout est simple. Or, ce sont des heures et des heures de douleur.
Mais on peut donner ces heures parce qu'on est tellement
passionné
qu'on aime tellement, qu'on trouve c'est tellement beau cette musique, qu'on a tellement envie de le chanter que. Après, au moment où on est sur scène, bah, ça y est.
Et puis parce que vous savez depuis adolescente que vous voulez être Violetta aussi. C'est ça, en fait, c'est un personnage hyper important pour vous.
Ouais. Non, c'est vrai.
Pourquoi
mais
Violetta
légèrement, ouais. Je me disais, ouais. je sentais en le jouant, je le jouais pour ma mère et mon beau-père au début de leur histoire d'amour, je chantais sur mon piano, ça. Et mais juste parce que je sais pas, je reconnais ces sentiments de. Brûler sa vie, d'aimer passionnément, au-delà de tout, au-delà de toutes les contraintes. Je reconnais ça, donc je sens que dans la musique, Verdi quand il écrit, Dumas quand il écrit, ils savent, ils ont vécu quelque chose. Et ce sentiment-là, ils ont perdu des femmes qu'ils aimaient très jeunes et tout, mortes des poumons, tout ça, des femmes qui avaient une vie un peu... pas comme tout le monde, enfin, des femmes un peu légères et tout ça. Eh ben, on sent qu'ils écrivent avec ça, quoi, qu'il y a une corde cassée en eux et qu'il y a tout ça dans la musique.
Une fêlure, oui, mais pareil pour David Bowie, pareil pour Radiohead, que vous mélangez dans vos spectacles, au bouffe, c'est ce que vous faisiez.
Ouais, j'ai fait des concerts comme ça.
Avec des reprises et sans aucune limite de répertoire.
Ouais,
c'était
voilà.
Votre choix, votre playlist.
Ouais.
Vous chantez tout, j'adorais. En fait. C'est ça l'idée.
Bah l'idée, c'est ça le résultat, ouais.
C'est de faire Bowie, Vivaldi, Radiohead, Verdi, c'est de se dire pourquoi
pas. Bah je trouve que oui, il y a une corde commune.
Pas d'étiquette,
ouais.
Et Piaf.
Et Piaf.
Audrey Kieszewski, merci de venir à ce micro. Audrey, tout à l'heure, j'évoquais le livre de Ginette Kolinka. Je ne sais pas si
Retour à Birkenau.
Si vous l'avez, oui. Vous l'avez lu, vous l'avez en tête, et vous inscrivez aussi dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut donner la parole et parler des survivants de ces camps, notamment des Juifs de Pologne depuis la Shoah. Vous l'avez écrit aux éditions Belin. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg. Il est important que les survivants, comme ce déclic, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas tout divulgâcher dans le film, ce déclic des survivants de se dire « je vais finir, je vais parler alors que j'ai voulu me taire, j'ai voulu oublier », c'est extrêmement important, évidemment.
Oui, bien sûr, c'est essentiel d'entendre la parole de ces derniers survivants, d'autant que oui, la majorité se sont tus, mais ils se sont tus aussi parce que les gens n'étaient pas prêts à les entendre au lendemain de la guerre.
Vous voulez dire, on ne voulait pas croire que c'était possible.
Oui, voilà, ça a été dit tout à l'heure, il fallait peut-être ce silence, c'était nécessaire pour se reconstruire, évidemment pour les enfants de ces survivants eux-mêmes, mais plus largement pour les sociétés d'après-guerre. Donc cette parole et toutes ces horreurs, toutes ces souffrances, c'était peut-être pas le moment. Donc bien sûr, des choses ont été dites, des livres ont été écrits, même nombreux, immédiatement après la guerre, mais au bout de quelques années, c'est le silence a prévalu et il faut attendre effectivement la génération d'après, la troisième génération qui est si magnifiquement montrée dans ce film pour amener ce déclic.
90% des 3 millions de juifs polonais ont été tués, exterminés. Pourquoi on parle de devoir de mémoire? Ça va être une évidence. Enfin, je veux dire, pourquoi il y a de l'oubli. On se dit que ça peut être dilué. On a peur que ça revienne, évidemment. Enfin,
oui.
C'est le mot devoir que j'aimerais comprendre.
Oui, moi personnellement, j'aime pas. J'évite vraiment d'employer ce terme de devoir de mémoire dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Je préfère déjà l'expression qu'avait forgé Paul Ricoeur de travail de mémoire parce que c'est difficile. C'est difficile de comprendre ce qu'il s'est passé dans la complexité des choses et ce qui s'est passé en Pologne est très complexe et c'est difficile de transmettre et le film montre bien d'ailleurs cette difficulté de la transmission dans des familles où la parole n'a pas pu circuler et donc c'est oui dans ce côté de mémoire en plus il y a cette dimension un peu de morale de moralisatrice qui, à mon avis, empêche qu'on atteigne le but. Et le but, c'est qu'on puisse essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui ont conduit à ces horreurs, à cette extermination, et pas de la phrase de « le plus jamais ça ». On s'en rend compte malheureusement tous les jours que c'est inefficient. Donc, voilà.
Et 10% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah. C'est un sondage en 2018.
C'est sérieux ?
Ouais.
Oui, alors je sais pas, je pense qu'il faudrait regarder attentivement la manière dont la question a été posée parce que vraiment je
le mot c'est choix mais voilà, mais en revanche dire génocide des juifs, je pense que
je pense parce que c'est évident que dans les programmes scolaires depuis maintenant de nombreuses années l'enseignement existe au primaire, au collège, au lycée, que les enseignants font du mieux qu'ils le peuvent. Après il y a ce qui est enseigné, il y a ce qui en est retenu, il y a l'impression même parfois de saturation de savoir ou de mémoire, alors que quand on creuse un peu, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à dire.
Alors, vous écrivez sur les survivants, sur ces survivants, quel chemin ont-ils parcouru ? Vous avez retrouvé dans le film, justement, ce que vous avez écrit dans votre livre ?
Oui, complètement. Alors, mon livre s'intéresse aux survivants
et aux descendants
de Pologne. Polonais qui sont demeurés en Pologne.
Alors
évidemment, ceux qui sont restés sont minoritaires. Déjà, ceux qui ont survécu sont très minoritaires. C'est 250 000, 300 000 sur les 3 millions. Et très vite, ils vont quitter la Pologne pour le reste de l'Europe, la France, les États-Unis ou d'autres pays. Moi, je me suis intéressée à ceux qui ont choisi de rester malgré tout, malgré la persistance d'un antisémitisme comme un véritable code culturel. On le montre aussi très bien dans le film. Voilà.
Encore aujourd'hui, c'est-à-dire il y a clairement des croix gammées qui continuent d'être vendues librement en Pologne.
Oui, tout à fait. Les petites figurines, en tout cas, sont là.
Les caricatures, alors, oui.
C'est très compliqué. Il y a beaucoup de travaux d'anthropologues qui ont travaillé cette question parce que c'est pas uniquement par simple antisémitisme. Il y a aussi fait de vendre le juif. Non, mais c'est
On peut pas dire c'est une tradition.
C'est comme un folklore. C'est
plus complexe. Ouais. Je comprends le côté assez intégré presque à la culture. Ça veut pas dire que c'est excusable par ailleurs, hein. Mais je comprends que ça soit pas aussi manichéen, quoi. C'est pas juste.
Évidemment, c'est aussi devenu un business. Ben ouais. Et on les produit parce qu'il y a un public pour les acheter et un public aussi de touristes juifs qui sont choqués et qui disent, je vais le ramener à la maison pour montrer les choses. Non, mais ça entretient aussi
donc
la mécanique.
Les autorités polonaises ne font rien ou n'ont aucune estime ou...
Alors, la politique polonaise est aussi très complexe. Il y a eu beaucoup d'efforts et beaucoup de chemins parcourus après la chute du mur et puis dans les années 90-2000. Et j'en étais témoin parce que j'ai vécu pendant 7 ans en Pologne pendant que j'écrivais ce livre notamment. Et je me suis rendu compte à quel point... Et le film montre aussi des initiatives locales de citoyens polonais pas du tout juifs qui veulent faire revivre... qui s'intéressent vraiment de manière sincère au passé juif de leur bourgade. Donc il y a cette dimension quand même qui existe et qui est montrée dans le film. Mais depuis les changements de gouvernement et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement qui est quand même très conservateur et qui pour des raisons de politique intérieure a un peu changé la donne. Et c'est vrai que maintenant... la Pologne a cette narration très martyrologique, se concentre sur les souffrances du peuple polonais et des peuples polonais pas juifs.
Et comment expliquer le phénomène des révisionnistes, des négationnistes ?
Alors, en Pologne, personne ne va nier la Shoah, ils vont juste minimiser les souffrances. Le négationnisme, après, c'est un... je crois que c'est pas un discours rationnel, c'est-à-dire le négationnisme, comme l'antisémitisme, n'a même pas besoin d'avoir un juif en face pour exprimer une peur, avant tout, une détestation de ce qui est différent ou de ce qui est perçu comme étant différent. Et c'est pour ça qu'il y a sans arrêt un discours à réinventer, à réinventer pour essayer de lutter efficacement contre ces propos.
Tout ce que l'on vient de dire sur les juifs polonais, on peut aussi le dire sur la guerre d'Algérie, sur tous les génocides, sur le racisme, sur...
Est-ce qu'on peut appeler Christine Angot peut-être, qu'elle a un avis sur la question?
Sur l'esclavage, sur le Rwanda, sur l'esclavagisme, tout ça.
Ce qui est certain, c'est que en matière d'enseignement, parce que c'est quand même avant tout mon métier, je pense que ça serait plus efficace d'enseigner l'histoire de la Shoah en la mettant vraiment en perspective avec l'histoire des autres violences de masse et génocides du XXe siècle. Et c'est que comme ça, de manière comparée, pour montrer des similarités dans les mécanismes, mais aussi la spécificité de chaque situation, qu'on peut comprendre et pas en rester dans le côté ni trop émotionnel, ni trop moralisateur. Vraiment, cette question de comparer est essentielle.
En tout cas, il y a un travail de mémoire qui a été fait, un beau travail, félicitations. Audrey Kieszewski, c'est aux éditions Belin, ça s'appelle Les survivants, les juifs de Pologne depuis la Shoah. Et puis, alors je n'ai pas, mais je vais peut-être le retrouver par la magie d'Internet.
Retour à Birkenau.
Ouais, le livre qui est lui publié chez Grasset, de la douce Ginette Colinca. Merci beaucoup,
merci
Audrey, d'être venue à ce micro. Bonjour Tanguy Pastureau.
Bonjour Nelly.
Absurde un coq est traîné devant les tribunaux.
Oui, c'est Maurice Lecoq, qui vit sur l'île d'Oléron et qui est accusé de chanter trop tôt le matin, un reproche qui n'a jamais été fait à Doug Gynéco, par exemple. Alors, sa propriétaire a tenté de le faire taire en lui disant « Tu continues, je t'envoie chez Père Dodu ». Il a continué à chanter jusqu'au bout, il chantera, il a le parcours de Charles Aznavour, mais avec une crête.
On en parle après les infos de midi.
La bande originale et la deuxième partie...
Ah oui. C'est maintenant. Oui, merci. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Bah,
je voulais juste dire à Tanguy Pastureau que le procès pour Maurice Lecoq est reporté.
Ah, il est reporté.
Donc Tanguy.
Donc,
ben,
tu range ton papier.
On aurait dû avoir Tanguy. Merci Laetitia. Tiens, ça tombe bien, le journal de 13h va être reporté aussi.
Je pense que c'est la meilleure vanne de Laetitia Gaillard depuis des siècles. Elle vient de mes deux.
Elle vient de loin.
Mais non, mais je voulais le donner.
C'est drôle. C'est drôle. Tout à l'heure, donc, à 13h,
le journal de 13h.
Et puis, toute l'après-midi, elle sera là pour informer ou pas sur
Maurice Lecoq. Partant du Passureau,
Laetitia Gaillé. À tout à l'heure, Laetitia.
Pardon, Tanguy.
C'est la bande au final avec les Lacs de Boudagie.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Tanguy Passureau, mais vas-y, écris Tanguy, il n'y a pas de problème. Tom Villa.
Oui.
Belle Siriste et notre invité Julie Chelma. Ma chère Judith, dans ce film, vous êtes donc une hystérique qui part à travers l'Europe direction la.
Elle
est totalement hystérique.
Non, c'est un
je ne supporte pas cette femme.
C'est fantaisie. Elle est plutôt fantaisie. Ouais.
Parce qu'en plus, hystérique, c'est un mot qui est beaucoup trop connoté maintenant.
Oui.
Parce
non.
que.
Parce que on a juste des émotions.
Ça renvoie aux femmes.
Moi aussi, je suis hystérique.
Non, mais c'est l'étymologie. L'étymologie d'hystérique.
Utérus.
Ouais, ouais. Donc du coup, c'est associé clairement à la nana. Donc c'est pour ça qu'on donnons un autre terme.
Non, moi je pense qu'elle est haute en couleur.
Mais on vient d'animer Leïla Kadourbonadi en une séquence. L'étymologie. Voilà, tout le monde peut plus chiant.
L'étymologie, c'est tellement important. Et l'étymologie. Ouais. Tu as raison. Ouais. Tu as raison. Donc elle est casse-pied. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Non. Et puis elle ne fait jamais caca.
Ah non.
Elle ne fait jamais caca.
Elle se lave les mains, c'est tout.
Et là, il y a une scène. Il y a une scène aux toilettes. Mais comment vous avez dû être morte de rire à tourner cette scène.
Ah ouais.
Où vous trouvez donc.
Je me suis beaucoup essuyée quand même.
Oui, ça
m'a plu. Oui, oui.
Gardez du mystère.
Et puis on voit que vous vérifiez aussi. Bah oui, c'est la scène.
À quel moment on a voulu arrêter que les gens aillent voir le film en fait.
Non.
Moi je pense que ça donne envie.
Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Allez voir Judith sur son trône dans le film. C'est extrêmement drôle parce que les filles ne vont pas aux toilettes. Madame, c'est
on
princesses.
A tous fait l'opération, je crois, autour de la table.
Bah oui.
On est d'accord. Oui.
Oui.
Bien sûr.
Non,
bah oui.
Non, pas du tout.
Trop gênant, le moment gênant. Non, c'est une véritable. C'est tout ça pour dire que c'est une véritable comédie avec des situations dingues, délirantes, avec une toile de fond extrêmement sérieuse. Très autobiographique comme vous l'avez raconté pour cette actrice. Et d'ailleurs, vous avez joué ou jamais joué avec elle?
Non, Elise, on se connaissait pas. Non, on se connaissait pas.
Comment
non,
vous
elle
êtes
m'a contactée, puis on a essayé, on a fait des lectures avec Arthur et tout ça.
Et à quoi vous avez vu, vous dites dirigée par une actrice, ouais. Ça change beaucoup de choses?
Déjà dans l'écriture, ça change quand même des choses, quoi, parce que
le rythme.
Et puis surtout, quelle actrice? Elle a un humour fou. Elle est, ouais, on sent que il y a pas de cliché du tout, quoi. Il y a aucun cliché, je trouve, dans ce qu'elle écrit, dans son personnage féminin. Je trouve pas que ce soit un cliché. C'est un personnage haut en couleur, un peu serré de temps en temps sur certains trucs et tout, mais c'est drôle, quoi. C'est des situations de comédie. Et puis aussi, elle fait confiance. Elle sait ce que c'est un acteur, donc elle nous donne des éléments et après elle nous laisse de la liberté. Elle sait ce qu'elle veut, mais c'est léger, ça. C'est vraiment très agréable.
Et c'est donc un voyage initiatique. Je le redis aussi bien dans la géographie pour retourner sur les traces de la famille de votre et de votre mari et de votre propre famille, mais aussi un voyage en soi, au plus profond de sa propre famille et de ses propres valeurs, de ce que vous transmettez à votre fils.
Oui. Comment rebondir?
Ah, beaucoup d'invités se sont posés cette question. Ça.
Ah, mais non.
Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai.
Y a-t-il un après la bande originale?
Et est-ce que ça vous questionne, vous, en tant que, cette fois-ci, pas en tant que comédienne, mais en tant que femme aussi, sur l'histoire familiale? Parce que, on a dit tout à l'heure que...
Sur la transmission avec vos enfants, oui.
Sur l'histoire aussi de votre famille, je sais pas à quoi elle ressemble, cette histoire-là, mais j'imagine aussi qu'il y a, il y a des interrogations qui peuvent se poser sur ce qu'on donne, on transmet, ce qu'on raconte.
Oui, bien sûr. Après, moi, j'adore faire parler mes grands-parents. J'aime et je trouve qu'on le fait jamais vraiment assez parce que
tradition orale.
Ah ouais. Puis moi, mes grands-parents, oui, ils sont. Mon grand-père est juif de Tunis, ma grand-mère sicilienne de Tunis. Donc ils nous racontent des épopées à Tunis. C'est extraordinaire comment il a fui en calèche avec ma grand-mère, poursuivi par la belle-mère sicilienne qui ne voulait pas d'un juif. Comment les calèches se font des blocages.
C'est Fast and Furious.
C'est extraordinaire.
Fast and Furious à cheval.
J'imagine. Mais c'est une histoire plus joyeuse.
Avec Dwayne Johnson.
Zéro pollution. Voici Tanguy Pastureau. Grosse actualité ou pas, je ne sais plus, en ce moment, au palais de justice, tant qu'il fasse.
Oui, d'abord Gérard Collomb, qui est maire de Lyon depuis la création de la ville en -43. Hein. C'est lui qui a construit la première hutte en bois, et soupçonné de détournement de fonds publics. Alors pour nous, ça paraît énorme, mais en politique, ça s'écrit sur un CV. Alors hier, on a perquisitionné son domicile, sa mairie, tout. À un moment, un type a enfilé un gant de latex en lui disant « c'est ton tour ». Collomb l'a bien pris, il a répondu « vas-y maloute, je rêve de sensations nouvelle. Toute ma vie, je me suis fait yèche. Une fois en 79, je me suis pris une cuite dans un bouchon de la vieille ville, mais c'est tout. Sinon, André Boudou, père de Laetitia Hallyday, a eu une petite garde à vue hier pour soupçon de fraude fiscale liée à une boîte de nuit qu'il a au Cap d'Agde. C'est le problème du Cap d'Agde. On oublie tout. Son slip, la politesse, hein, parfois on a joui sur la personne avant de connaître son prénom. Donc, oubliez de déclarer 2-3 milliers d'euros au fisc, c'est rien là-bas. En plus, la boîte s'appelle l'Amnésia. Il n'a pris personne par surprise. Il y avait des indices. Même Samy dans Scooby-Doo aurait pu résoudre cette énigme. Enfin, il y a le procès Balkany qui consiste à écouter Patrick Balkany dire qu'il ne se souvient de rien. Il a dû trop traîner au Cap d'Agde. Hein, tandis que Dupont-Moretti, son avocat, grogne. Il communique comme Néandertal. S'il croise Chabal en culotte de peau, il va le checker en lui disant « tape-moi 4, il m'en manque un que m'a bouffé un tigre à dents de sabre ». Bref, l'actualité judiciaire est chargée puisque nous sommes un pays de truands. Mais tout ça n'est rien à côté du procès fait au coq Maurice. Oui, aujourd'hui à Rochefort, devait être jugé un coq, pour vous dire le niveau de bêtise que notre pays a atteint. Ça va se passer un jour, le procès aura lieu. Hein. Alors je vous raconte l'histoire, mettez-vous en cercle autour de moi et déshabillez-vous, comme nous le disait mon chef scout lors du camp de vacances en août 82. Il était une fois un coq, Maurice, qui habitait l'île de Léron. Alors que Lionel Jospin, c'est l'île de Ré. Hein. Chaque île a sa bestiole plus ou moins en forme. Maurice a 4 ans, fait 2,5 kg, hein, comme Lily Rose Depp, et vit chez Corinne, sa propriétaire. Alors bien sûr, le coq, chaque matin, chante, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, comme Amel Bent. Hein, seulement, à côté de chez Corinne, il y a une résidence secondaire. Des gens usés par la vie, donc sans doute Benoît Hamon, hein, viennent se reposer. Et le chant du coq à 6 heures, il déteste, comme Manuel Valls déteste les gens qui n'ont pas voté pour lui à la municipale à Barcelone, qu'il dérouillerait volontiers s'il ne représentait pas 99,8% des habitants de Barcelone. Ils sont donc allés voir Corinne, ont demandé qu'elle fasse taire son coq, mais c'est impossible. On peut faire taire un nord-coréen, hein, il suffit de mettre Kim Jong-un au sommet de l'État qui lui dit « ferme ta bouche, sinon je te coiffe comme moi ». Mais Kim Jong-un n'a pas le temps de s'occuper d'un coq, il a déjà à gérer Donald Trump qui est aussi con. Les voisins font donc un procès à Corinne, afin que le coq soit placé, soit au KFC de la Porte de Saint-Ouen, soit chez Alain Delon, qui le piquera en même temps que ses chiens le jour où il se sentira clemsé. Bon, il faut les comprendre, hein. Ils ont acheté à l'île d'Oléron en se disant « enfin on va pioncer, on va avoir la life de Gérard Larcher ». Et des potrons minets, comme dit plus personne parce que tous ceux qui disaient ça sont morts, ils sont réveillés par un potentiel nugget, Nagui.
Mais ça arrive souvent ce genre de dispute entre voisins?
Mais oui, Nagui, parce que les gens n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie pendant que nous, on kiffe. Ils sont de l'autre côté du poste en train de réchauffer un plat, Pierre Martinet traiteur, en pleurant. Pour les plus riches, les pauvres, eux, mangent leur peau morte. En 2018, tenait toujours à Oléron, un autre coq avait fait polémique, Coco. Sa propriétaire avait été menacée de mort. Elle avait embauché Alexandre Benalla pour protéger son coq. Ce dernier avait tué 16 renards qui tentaient de l'approcher avec les deux dents de devant. Et ça, c'est le quotidien des ruraux. Hein, ils sont tranquillous chez eux. veut, comme Brigitte Macron chez Vuitton, là, paf, des citadins déboulent et les animaux doivent se taire, juste parce que monsieur et madame ont envie de dormir. Et demain, ils vont traîner devant les tribunaux les quatre mouettes du coin qui braillent pour nuisance sonore. Plus dommages et intérêts si elle leur lâche une fiente sur le ciré d'Icotène. Et il n'y a pas qu'à Oléron que les citadins font leur loi. Tiens, le maire de Gajac, en Gironde, a demandé à ce que les bruits de la campagne soient classés patrimoine national. Le cri du coq, le meuglement des vaches, le rire de Karine Lemarchand quand un paysan lui avoue qu'à 37 ans, il n'a eu de rapport sexuel qu'avec des bottes de foin. Et le son des cloches. Parce que figurez-vous que des gens, des citadins, font des procès pour que l'église ne sonne plus à la campagne. Mais il faut habiter en ville, les gars. À Paris, il reste que Cadra qui bouffe en silence les enfants qui tombent par terre, plus des pigeons qui se vident sur des graphistes barbus en train de végéter au canal de Lourdes en discutant vivre ensemble. Il n'y a pas un coq, pas une vache. Enfin si, une fois, au salon de l'agriculture. Mais on ne les entend pas puisque les politiques qui viennent les frotter, eh ben, leur cri est plus fort. Hein, donc ce midi, je pense à Maurice, ce fier coq, emblème de la France, qui le matin se lève avant tout le monde pour chanter. À l'heure où même les candidats, n'oubliez pas les paroles, ne sont pas encore lavés les dents. Hein, parfois d'ailleurs, ils ne le font pas du tout et ça se voit à votre tête, Nagui, à la télé. Hein, la même que vous faites quand entre Alain Bachung et Bézu, la dame a dit « Je vais prendre Bézu ». Maurice Lecoq doit gagner son procès qui va avoir lieu un jour, hein, ce oui, procès. Parce qu'on n'a rien dit pour Camaro en 2004, rien pour le groupe Tragédie en 2003, même les Kids United, on a réussi à dépasser la tentation de l'infanticide. Donc partant de là, Maurice doit pouvoir chanter. Et aux ruraux, je souhaite de profiter longtemps du bruit des paix des vaches et du rire de Karine Lemarchand.
Merci Tanguy Pachot. La bande originale, la vie sur France Inter. Lune de miel, le premier long métrage d'Élise Otzenberger dont nous parlons aujourd'hui avec Judith Chemla qui est à l'affiche de ce film qui le porte. Elle joue le rôle de Anna, aux côtés de Adam joué par Arthur Igual, je dois prononcer super comme ça maintenant, je fais gaffe. Jeune couple de Parisiens, tous les deux d'origine juive polonaise. Et il se trouve que Adam décide d'aller à la commémoration, où ils sont invités à la commémoration.
C'est Anna qui pousse hein, pour y aller.
Avec l'oncle. Ouais,
ouais, c'est ça. Lui, il n'est pas très, emballé par ce voyage et elle est surexcitée de respirer la Pologne, de repartir sur le terrain de sa famille, alors que finalement, lui, en connaît plus sur sa famille que elle, qui va tout découvrir.
Oui. Oui, mais je pense que c'est une façon. Il connaît plus et il pense que bon, ça va. Et il est aussi touché qu'elle, finalement. C'est juste qu'elle, ayant un manque, elle y va. Elle y va habillée en tête.
C'est leur première fois en plus à tous les deux en Pologne. Ils sont.
Et puis elle en veut à sa mère. Elle en veut à sa mère de tout d'ailleurs, de ne pas savoir cuisiner, de ne pas avoir retenu la recette du bord justement à sa grand-mère tellement sa recette. Regarde la redémarre. Cette recette était bonne et puis ma mère cette idiote elle a pas demandé la recette.
Ouais. Non il y a un gros conflit avec la mère.
Il y a que des clashs.
Ouais. Bon, après, la chose la plus profonde, c'est le manque de communication. Ouais. Donc, tout se greffe dessus, mais le fait que oui, qu'il n'y ait pas eu de lien avec sa grand-mère, que donc, il y a beaucoup de choses, ouais, mère-fille, ça peut soulever des mondes.
Et puis ce couple qui peut même par moments peut-être pas se séparer, mais enfin se tendre un tout petit peu. Il y a comme le disait Leïla tout à l'heure, il y a des scènes de franche engueulade au sein du couple.
Ah oh, mais ça fait du bien quand même. Sinon on s'emmerde. Ouais.
Ouais. Un message à passer.
Pardon.
Un message à passer.
Non pas du tout, mais bon c'est explosif et puis en même temps il y a de l'humour et en même temps je trouve ça beau parce que il y a tous les aspects de la vie. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai. Tout est permis, quoi. Si on peut pas s'engueuler et puis se réconcilier, bon.
Partir à la recherche de ses racines, tant géographiquement que au fond de soi, dans son esprit, dans son cœur, dans l'émotion aussi qu'il y a au sein de cette famille, avec un casting que je tiens à souligner, Brigitte Rouen et André Vils, mais aussi sont bouleversants dans le rôle de vos parents. Ça sera à partir du 12 juin prochain, mercredi, au cinéma Lune de Miel. Voici Frédéric Sigrist.
Eh oui, en fait, c'est une chronique qui est un petit peu qui va répondre à celle de Tanguy parce que figurez-vous que j'ai un rat qui vit dans mon compost, Nagui.
Ah bon ?
Oui, et je vous promets que c'est pas une chanson de Zaz.
Au moins, il a de quoi manger.
Non, c'est j'ai un vrai rat. C'est-à-dire que vous en souvenez peut-être pas, mais il y a 122 chroniques de ça. Je vous ai dit que ma femme et moi, on avait acheté un composteur.
Je me souviens.
Hein, parce que je sais que mes chroniques, c'est pas Game of Thrones, mais il y a un minimum de continuité quand même. Hein, vous pourriez faire un effort.
Il hein, y a des valeurs, monsieur.
Il y a des valeurs, voilà. Bon, je sais que Marina a un chien. Je sais que Tom Villa a des MST. Donc, je rappelle le principe du composteur. C'est un conteneur où on met tous les déchets organiques qui, après un processus de fermentation, donnent de l'engrais. Hein, c'est un petit peu comme le Parti des Républicains, mais pour les légumes. Bon, alors, je savais, ça m'est pas arrivé comme une surprise, que le compost pouvait attirer des bestioles, des mulots, des lombrics, des zadistes. Mais un rat ? Un putain de gros rat ! Il est énorme. Quand j'ai ouvert, je fais 1m80, 90 kilos. J'ai poussé le cri le moins viril de la création. J'étais... C'est un rat, il met au moins du 6 ans. Et tu sais que le rat qui vit dans ton compost, il est trop gros quand tu ouvres la porte et que tu dis mais t'aurais pu frapper quand même. Depuis que je l'ai vu, je suis à deux doigts de le mettre dans la catégorie personne à charge quand je remplis ma déclaration d'impôt. Et puis il ne gueule ce rat, parce que là c'est pas le rat mignon type Rémi dans Ratatouille qui monte sur ta tête pour faire de la cuisine. En plus ouais, avec moi vraiment je ne peux rien faire, hein. Dans une cuisine je ne peux rien faire, j'ai même pas de cheveux. Il faut avoir vu le film, sinon on comprend pas. Là mon rat il a la tête de Philippe Echtebest qu'aurait goûté une mayonnaise avec des aliments périmés. On est sur du rat qui a vécu. Hein, mon rat, il a fait des soirées avec Benoît Magimel et Samina Seri. Hein. Mon rat, Joey Star, il lui dit oh, s'il te plaît, merci. C'est sûr. Je suis sûr qu'il a tous ses copains. En plus, lui, il est content parce que techniquement, c'est la plus belle de ses vies. Mon compost, c'est un buffet bio à volonté. Techniquement, je suis devenu le serveur attitré du rat. Je suis sûr qu'il raconte à tous ses copains ouais, j'ai adopté un humain. J'en suis content. Et l'autre, sûr, c'est sale quand même. En plus, ils sont méchants. Non, lui, il est bien élevé. Moi j'ai toujours peur qu'un jour ils me disent, ils m'appellent pour dire mais tu trouves pas que les épluchures de panier c'est dégueulasse, j'en veux plus, il va demander autre chose au menu, enfin ça va être un truc de fou. Quand ma femme est tombée dessus, la tête qu'elle a fait. Et c'est drôle de voir un être humain passer en 1/100 de seconde idéologiquement de Nicolas Hulot à Donald Trump. Idéologiquement, là, il y a que Dupont-Aignan qui change de camp aussi vite. Je veux dire, sur le moment, elle aurait eu un jerrycan sous la main, elle lui foutait le feu au compost, à la maison des voisins aussi, dommage collatéral, on s'en fout, rien à foutre du bien-être animal. Hein. Les vidéos L214 dans les abattoirs, tu mets des rats à la place des petits veaux ou des poussins, mais tout le monde s'en bat la race. Hein. Elle est rentrée, elle s'est calmée, elle tremblait comme ça, et puis elle a fait ce que tout le monde fait, confronté à un problème, surtout quand tu te dis écolo et que tu dois vivre avec tes convictions. Elle a regardé sur Internet. Et alors, Internet, c'est pratique parce que tu trouves pas forcément des réponses. Par contre, tu te poses beaucoup plus de questions. Parce que t'as deux écoles. Parmi les écolos qui ont un compost, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent « Laissez-les vivre ». Les rats font partie de l'écosystème. Ce sont nos amis. Ils étaient là avant nous.
Et c'est pas méchant.
Non. Et puis t'as ceux qui sont écolos, mais uniquement en temps de paix. Et qu'avec des animaux très mignons. Par exemple, t'as un compost. Ça attire une colonie de bébés pandas. Pas de problème, ils restent. Face aux rats, c'est pas la même. Et là, les gens, ils deviennent fous. Ils disent, faut tous les buter.
Non.
Quand, en plus, il y en a jamais qu'un. Ils sont souvent par deux. Et au bout, ils se multiplient à une vitesse. Et là, on s'est regardé avec ma femme. On s'est dit, mais attends. J'ai vu le rat, t'as vu le rat, mais est-ce que c'est le même? Parce que je suis pas très physionomiste en rat. En plus, je vais pas commencer à dire, oui, mais tous les rats ont la même tête, parce que c'est hyper
raciste.
Donc, on a eu la confirmation, merci Google, que l'ennemi naturel du rat, c'était le chat. Donc, on était comme deux couillons dans le salon. Oh, on va prendre un chat. Ça y est, on a enfin l'excuse pour qu'on ait un chat. Mais le problème, c'est pendant les vacances. Qui va garder le chat? Et en plus, si c'est un chat qui a peur des rats, parce que ça arrive,
ouais, c'est vrai.
On va se retrouver avec des rats et un chat qui sert à rien. Et s'il y a un chat, on aura moins d'oiseaux dans le jardin. Or, on a déménagé à 45 km de Paris pour avoir un jardin et voir des oiseaux. Et s'il y a moins d'oiseaux, il y aura plus de moustiques. Donc au final, on va se faire emmerder par des rats, un chat et des moustiques. C'est tout un écosystème bouleversé. En plus, quand tu prends un chat pour tuer des rats, c'est d'une hypocrisie. Parce que finalement, t'es le roi des baltringues. Et tu sous-traites ce que t'as pas envie de faire. Toi, tu veux pas mettre de l'amour au rat, mais par contre, tu vas prendre un chat qui va zigouiller. Ah, mais lui, il est écolo, il le fait. Et tu te dis finalement, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre dans les abattoirs. Tu vois, il faudrait peut-être mettre des lions en liberté pour zigouiller les bestioles. Et on mangerait que ce qu'ils nous ont bien voulu nous laisser. Enfin voilà, je vous avais prévenu, j'ai beaucoup de questions et peu de réponses. En attendant, faut que je vous laisse, j'ai un rat à nourrir et il aime pas trop quand je suis en retard.
Frédéric Cyrus.
France Inter, la bande originale. Avec Nadine.
Et Frédéric Sigrist sera du 19 au 22 juin à la Fontaine d'Argent, c'est à Aix-en-Provence.
La semaine prochaine, le 12 juin, donc sortie de ce film Lune de miel avec Judith Chemla. Judith, vous avez tourné en mars dernier The End of Love.
Ouais.
Vous avez retrouvé Noémie Lvovsky.
Oui.
Entre autres,
qui joue ma maman. D'accord. C'est super. Retrouvaille.
Quelle histoire de ce film, que faites-vous dedans?
Ah, c'est un très beau film. C'est un procédé un peu particulier. C'est un couple encore séparé par la distance. Elle à Paris, lui en Israël, et ils se parlent que par Skype. On voit jamais d'ordinateur dans le film, mais on est que
par écran
dans la vie de ces gens. Donc on parle à la caméra, quoi.
D'accord.
Et donc c'est assez drôle parce que c'est une intimité folle et il se passe plein de choses. Le couple se délite. Je trouve que c'est vraiment réussi, quoi.
Vous avez tourné, vous êtes en train de tourner Possession.
Ouais.
Vous êtes en train ou c'est fait?
Non, je suis en train, ouais, jusqu'à fin juillet.
Avec Reda Kateb.
Reda Kateb.
Que vous embrasserez pour nous.
C'est super. Aloïs Sauvage, Dominique Valadier, enfin, casting de rêve.
Ça, c'est une série pour Canal.
Ouais.
C'est un policier, c'est un drame psychologique, c'est quoi?
Ah, c'est compliqué. Oui, c'est un peu policier, c'est. Je sais pas, pour pas spoiler le truc, je sais pas comment dire, mais c'est très particulier.
Vous avez compris quand même quand
je comprends, ouais, mais c'est très 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 particulier, une ambiance folle. C'est vraiment limite. Il y a des choses qui font penser à Lynch, qui font penser à Fellini. C'est génial, vraiment, j'adore.
Et vous êtes la femme des rêves dans Vif Argent, la femme des rêves de Timothée Robard, c'est ça?
Ouais.
Et il rêve de vous.
C'est très 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 beau. C'est un film magnifique, Vif Argent. C'est un film qui communique, enfin c'est une communication entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est très très bien fait, très original, très beau. Enfin je sais pas, je trouve que Stéphane Batu, c'est son premier film à 50 ans et c'est un cinéaste, quoi. Donc c'est vraiment magnifique.
Ça sortira le 22 août, hein. On a le
temps
de...
Oui, ou le 28, je crois.
D'en parler. 22, j'ai comme date, mais...
Moi, j'ai dit 28.
Oui, mais c'est pas mercredi. Enfin, on va vérifier.
Ah ouais, c'est vrai.
On va vérifier. Des excuses à présenter, Frédéric Sigrist.
Eh oui, des excuses. Désolé pour Nagui, qui a été rappelé par Judith Chemla à la réalité du temps qui passe, de la mort qui pointe le bout de son nez. Bon, moi, j'y crois pas, Nagui, vous êtes immortel.
Merci.
Enfin, désolé pour tous nos auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter le titre des livres dont on parlait, hein. Mission de service public oblige. Foncez donc lire Au tribunal de mon père d'Isaac Bastiewicz Singer, Les disparus de Daniel Mendelssohn et Retour à Birkenau de Ginette Kolinka. Désolé pour Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte, Denis Podalydès et tous les fonctionnaires de la Comédie Française qui, selon Judith Chemla, ont peur de la vie et de l'imprévu.
Vous êtes atroce.
On en parlera demain à Laurent Stocker.
Et Judith, vous avez raison, c'est le 28 août que sortira Vif Argent, le premier film de Stéphane Batu. Ouais. Merci Judith d'être
Merci
venue
à vous.
Porter Lune de miel et bravo pour votre interprétation. Demain, Alix Poisson et Laurent Stocker sont nos invités pour parler d'une série qui arrivera sur Canal à partir du 13...
Arte, pardon.
À partir du 13 juin, c'est bien, ils sont affûtés dans cette équipe, qui s'appelle Jeu d'influence.